Les dossiers Construction 21. Aujourd'hui, les différents leviers pour construire bas carbone et comment se préparer à la RE 2020.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de Construction 21. Nous allons évoquer aujourd'hui avec nos intervenants du jour les différents leviers pour construire bas carbone et comment se préparer à la RE 2020. Nous allons, dans le cadre d'une première table ronde, évoquer tout d'abord les enjeux du bâtiment bas carbone et les différentes expérimentations liées à ce nouveau challenge. Et ensuite, nous évoquerons, dans le cadre de la seconde table ronde, les exemples concrets qui ont été mis en place et les retours d'expérience.
Les dossiers Construction 21.
Et nous allons tout de suite démarrer cette première table ronde avec nos trois intervenantes du jour, Nathalie Chang, Nadège Houri et Emmanuel Brière. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors, moi je suis très contente, on a une table 100% féminine là pour commencer. C'est rare, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
Ça évolue dans le bâtiment et c'est une très bonne chose.
Nathalie, vous vouliez dire quelque chose?
Non, mais c'est super.
Bah écoutez, c'est rare et donc je suis très contente de vous recevoir pour cette table ronde. Alors Nathalie Chang, on va commencer avec vous si vous le voulez bien. Vous êtes présidente de Tribu Énergie et vous représentez la rédaction en chef de ce dossier qu'on va aborder aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet et quels sont les objectifs de ce dossier?
Alors, déjà, c'est une petite précision. Je suis bureau d'études, mais aussi membre SINOV, qui est donc voilà le syndicat des bureaux d'études. Donc et ce dossier, je l'ai voilà en tant que rédaction chef, nous étions trois. Il y avait aussi Idriss Catadra et Julien Garnier. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors effectivement, ce dossier nous tient à cœur puisque dans l'actualité, on entend beaucoup parler de la future RE 2020, donc la réglementation environnementale, qui est en cours d'élaboration. Mais effectivement, le calendrier politique annonçait un texte beaucoup plus tôt. Et puis, effectivement, mais vu la complexité du sujet, ça dérive un petit peu, puisque la RE 2020 ne devrait pas être applicable avant le second semestre 2021. Et donc, ce dossier, en fait, on l'a consacré plutôt au retour d'expérience sur le bas carbone, sur la démarche E plus C moins, afin que l'ensemble des acteurs du monde du bâtiment puissent disposer d'informations pour se préparer justement à cette future réglementation environnementale et à la démarche bas carbone.
Alors, pour expliquer les choses de façon simple, qu'est-ce qu'un bâtiment bas carbone, Nathalie?
Alors, qu'est-ce qu'un bâtiment bas carbone? C'est une très bonne... En fait, c'est un bâtiment qui vise à limiter ses émissions de gaz à effet de serre, mais de manière globale. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte à la fois le système constructif, mais pas que. On va aussi s'intéresser au choix on va s'intéresser à l'ensemble des matériaux et des produits de construction. Donc ça, c'est important. On va vraiment comptabiliser dans le bas carbone tous les éléments qui construisent, qui participent à la construction d'un bâtiment, mais également les choix d'approvisionnement énergétique, l'impact du chantier, l'impact des consommations et des rejets d'eau. Et normalement, quand on parle de bâtiment bas carbone, on devrait aussi s'intéresser à la partie transport qui peut être non négligeable.
Oui, donc vous avez donc traité les différents axes et les différents leviers possibles.
Alors aujourd'hui, le dossier, et puis d'ailleurs le référentiel plus c'est moins, s'intéresse à tous ces sujets, sauf l'impact transport qui est vraiment une complexité à part, qui dépend plus du ministère des Transports que du ministère des ministères écologie et puis logement.
Alors vous avez vous-même rédigé un article dans le cadre de ce dossier. Qu'est-ce que vous avez évoqué dedans?
Alors, déjà, j'ai rappelé les fondamentaux du label E+, c'est moins, ce qu'on applique aujourd'hui pour aller vers des bâtiments bas carbone avec l'indicateur énergie, les indicateurs environnementaux. J'essaie aussi de l'illustrer à travers un exemple pour regarder un petit peu le poids des différents éléments.
Oui.
Et puis surtout, j'ai amorcé par un petit retour d'expérience sur ce label avec mais je complétera peut-être aussi, puisque je suis très, très active sur le sujet, mais voilà, la base de données, c'est quand même un outil formidable pour l'ensemble des acteurs de la profession, avec le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore trop peu de fiches, que ce soit des SES ou des PEP, dans la base de données, et que les industriels ont toujours à... Voilà, encore pas mal de travail à faire, même si le label Opus chez moi a vraiment permis d'améliorer les choses. Le photovoltaïque qui actuellement est assez pénalisé avec des valeurs bas carbone. Le fait qu'il va y avoir quand même une révolution pour avec cette future 2020 qui s'est déjà amorcée dans le label Opus chez moi. Mais c'est la question des études. On faisait des études thermiques, maintenant il va falloir faire des études carbone. Donc il faut que les acteurs se forment à les faire. Il faut que les maîtres d'ouvrage acceptent aussi de payer cette mission complémentaire, à la fois en conception mais aussi en exécution. Et puis, la grande question de la complétude des études SCV, qui est un vrai sujet. Comment s'assurer que toutes les données sont bien là? Parce que finalement, il ne faut pas non plus que des bureaux d'études rigoureux qui comptabilisent l'ensemble des éléments soient pénalisés.
On vous entend plus, Nathalie. Bon, on a perdu Nathalie, c'est pas grave. On va revenir avec elle tout à l'heure sur les autres axes qu'elle a traités dans ce dossier. On va continuer avec vous, Nadège Houry. Vous êtes chargée de mission chez Alliance HQE GBC. Alors avec vous, on va évoquer l'ACV, je crois, un outil précieux de l'expérimentation E+, C-.
Alors,
qu'est-ce que c'est déjà?
Alors l'ACV, c'est l'analyse de cycle de vie.
Oui.
C'est de regarder... pour un système, donc que ce soit un produit de construction ou un bâtiment, toute sa durée de vie du système, donc
oui.
L'extraction de la matière, son usage, sa fin de vie, et de regarder tous ses impacts environnementaux, donc que ce soit le carbone, mais aussi la production de déchets, la production d'énergie, vraiment tous les impacts environnementaux qui peut y avoir dans l'ACV. Et donc... nous, à l'Alliance HQE-GBC, on se base... en fait, on a une double mission. On est aussi propriétaire de la base Ignès.
Oui.
Donc, on s'occupe de la gestion des FDES et des PEP, de la mise à disposition de ces données dans la base Ignès. Et du coup, on fait aussi des études ACV à l'échelle bâtiment.
Mmh.
On a fait plusieurs études en lien avec l'expérimentation E+, C-, pour regarder les autres indicateurs environnementaux autres que le carbone, puisque E+, C-, c'est vraiment basé que sur le carbone.
Oui, sauf qu'il y a les autres arguments, j'avais du mal à le dire, en tout cas les autres indicateurs qui
c'est
sont
ça.
Importants aussi, autant que ceux que vous relevez.
C'est
en
ça.
Tout cas. D'accord.
Donc nous, on a voulu mettre en avant plusieurs indicateurs, les indicateurs déchets dangereux, non dangereux, et l'utilisation nette d'eau douce et l'épuisement des ressources.
D'accord.
Qui sont pour nous les autres indicateurs à regarder pour la suite, pour l'économie circulaire. Mais on aurait pu aussi regarder tous les autres indicateurs, mais bon, ça fait un très large panel, puisqu'il y en a 28 dans les FDES et PEP. Et donc, on peut avoir 28 études différentes. Et donc, nous, on s'est focalisé depuis l'expérimentation E+, C-. On a fait 3 études différentes. En prenant vraiment des bâtiments qu'on fait l'expérimentation E+, C-, sur du résidentiel. Donc, on a une dizaine de logements et une dizaine de maisons individuelles. Et on a regardé, justement, les indicateurs que je vous ai dit précédemment.
Oui.
Après, on a fait une autre étude... plus du coup, si vous, enfin, ce que vous voulez les résultats.
Oui, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent ces indicateurs. Positif. Est-ce qu'il y a encore du boulot à faire? Est-ce que finalement, est-ce que c'est moins alarmant que ce qu'on imagine?
Alors pour l'instant, on n'avait pas forcément de d'ordre de grandeur, donc on peut pas savoir exactement.
Oui, puisque c'est une première expérience.
C'est ça. Ouais. On avait fait en 2011-2012 les tests HQE Performance sur l'ACV bâtiment neuf,
oui.
Ce qui ont permis du coup d'avoir des résultats et des seuils pour l'expérimentation E+, C-. Et donc, on a pu aussi récupérer les résultats et les médianes du test HQE Performance et de les regarder si elles sont toujours d'actualité ou si ça a changé ou pas. Donc, il faut savoir qu'en 2011-2012, les FDES, déjà les PEP n'existaient pas à ce moment-là. Les FDES n'étaient pas avec la même norme. Donc, en fait, les indicateurs sont différents. Donc, on ne peut pas utiliser forcément pour tous les indicateurs cette référence. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est à peu près, le même ordre de grandeur, même si, en rajoutant les PEP en plus, ça revient à peu près aux mêmes ordres de grandeur. Nous, ce qu'on voulait regarder, c'était plus quel lot impacte le plus, pour voir, parce qu'on dit souvent que pour le carbone, c'est les lots de gros œuvres, donc oui. Les lots 1, 2, 3... qui impacte le plus.
Ce qui n'est pas le cas.
Si pour le carbone, si. Dans le neuf. Mais pour les autres indicateurs, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas eux qui impactent le plus. Par exemple, pour l'épuisement des ressources, c'est plus les lots techniques. 8, 9, 10, 11 aussi.
Très bien. Alors, on a, je crois, Nathalie Chan qui est revenue avec nous. Nathalie, vous êtes là ?
Oui, tout à fait.
Bon, on vous a perdu qu'un petit instant. Est-ce que vous voulez déjà réagir ? Vous avez entendu ce qu'a dit justement notre Nadège
oui,
ou pas ?
Oui, tout à fait.
Vous voulez réagir ?
Alors, moi, ce que je voudrais juste compléter, c'est de bien insister sur le fait que toute cette démarche aujourd'hui, au plus c'est moins RE 2020, elle est axée essentiellement sur les bâtiments neufs. Le bâtiment le moins carbone qui existe, c'est quand même le bâtiment existant. Et ça, c'est quand même super important. C'est qu'aujourd'hui, notre dossier traite essentiellement du secteur des bâtiments neufs, la future réglementation aussi. Mais il n'y a rien de plus bas carbone que de réhabiliter des bâtiments.
Alors, j'allais justement en parler.
Oui, Nadège, après je donnerai la parole à Emmanuel Brière.
Justement, dans nos études, après, en 2017, on a lancé le test HQE Performance sur les bâtiments existants. Et du coup, en effet, on voit bien que le bâtiment le plus bas carbone, on arrive à atteindre le niveau C2, qui est quand même difficile à atteindre en neuf. Là, il est très facilement atteignable au niveau des produits de construction. Il est très, très atteignable avec des bâtiments rénovés.
Tout ça est très intéressant. Emmanuel Brière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable technique froid climatisation chez Uniclimat. D'abord, c'est quoi Uniclimat ?
C'est le syndicat des industriels de la thermique, de l'aérolique et de la frigorifique. Donc, c'est un syndicat de fabricants d'équipements de génie climatique.
Eh bien, justement, parce qu'on va parler avec vous du rôle et de l'impact des équipements techniques sur l'environnement. Ça joue un rôle important ?
Oui, ça joue un rôle important. Et comme le disaient Nadège et Nathalie tout à l'heure, c'est une démarche assez récente pour ce secteur industriel. Le programme PEP EcoPassport est né en 2009. Donc, il a fêté un petit peu ses 10 ans il y a quelques années. Mais c'est quand même très récent par rapport à la démarche qu'avaient initiée les industries de la construction, des produits de construction. Donc, on a démarré de loin. On a progressé vraiment de manière régulière au départ pour évaluer l'impact environnemental. Des équipements techniques, il n'y avait rien. Donc on a créé ce programme PEPECO Passport pour donner un cadre de référence pour évaluer de manière fiable et reconnue et partagée avec des règles partagées le programme PEPECO Passport. Beaucoup d'industriels se sont impliqués dans ce programme dès le départ, sont fondateurs de ce programme. Ce programme se développe bien depuis 10 ans et on arrive aujourd'hui à disposer de plus de 2000 PEP sur la base PEP, dont certains sont envoyés effectivement disponibles dans la base Ignès pour faire le calcul du poids carbone du bâtiment au niveau français, puisque le programme PEP EcoPassport est international. Donc il y a d'autres PEP disponibles, mais pas pour le secteur du bâtiment.
Alors, comment est-ce qu'on manage un projet carbone
pour l'industrie ?
Comment est-ce qu'on fait ?
Vaste sujet. C'est vrai que c'est quelque chose qui emmène toute la filière construction. C'est la France est vraiment en avant sur ce sujet-là au niveau européen et au niveau mondial. Donc ça, c'est à souligner. C'est une très bonne chose. Et ça a poussé donc toute cette filière construction à se préparer au niveau industriel. Ça a été une petite révolution. Non pas qu'on découvrait l'approche de l'analyse du cycle de vie, puisqu'on travaille dans le domaine de l'éco-conception depuis des années. années. Mais dans un cadre bien précis, défini par des réglementations, c'était une nouveauté. Comme le disait Nadège tout à l'heure, il y a énormément d'indicateurs à calculer. Donc il fallait...
C'est un travail d'équipe.
Enfin voilà, travail d'équipe. Il fallait tous se mettre autour de la table, se mettre d'accord sur comment on évalue cet impact environnemental. Donc c'est un travail qui a pris quelques années, hein, très sincèrement. Et puis aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité sur les règles qui sont partagées, qui deviennent des normes, partagées au niveau européen également. Donc on est en mesure aujourd'hui de calculer l'impact environnemental, la carte identité des équipements techniques et de manière homogène et fiable d'un fabricant à un autre. Donc ça, c'est important. Dans la démarche française du label Le Plus et Moins et la future RE 2020, il y a un gros travail fait par les industriels pour mettre à disposition des PEP sur la plupart des équipements de génie climatique. Oui. Ils existaient déjà pour une bonne partie des équipements électriques et électroniques. Hein, la filière industrie électrique était un peu en avance sur la filière génie climatique, mais aujourd'hui, on est vraiment content puisque le syndicat a travaillé à mettre à disposition ce qu'on appelle des PEP collectifs. Il y a des petites notions comme ça, un petit peu importantes, mais un PEP collectif, c'est un PEP qui est réalisé par un ensemble de fabricants, donc qui est valable pour plusieurs produits, contrairement à un PEP individuel qui est valable que pour un industriel et son produit. Et donc aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de PEP de disponibles pour couvrir l'ensemble des solutions techniques de chauffage, ventilation, climatisation et de production d'eau chaude sanitaire pour le résidentiel. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, voilà, sur ce lot technique CVC, on a les données disponibles pour faire le calcul détaillé. Et ça, c'est important, parce qu'un calcul détaillé à l'échelle du bâtiment, ça permet d'avoir vraiment sa bonne empreinte carbone, quoi.
Alors, pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette première table ronde, quels sont encore les efforts qu'il reste à faire, autant de façon individuelle que collective, selon vous? Alors, c'est une question qui s'adresse à toutes les trois, hein. Nathalie, vous pouvez y répondre, évidemment. Nathalie?
Oui, tout à fait. Moi, déjà, je voudrais vraiment féliciter Emmanuel avec Uniclimat, puis Gnès aussi, parce qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait. On est parti de rien, on était très, très
inquiets.
Et là, on a vu un travail considérable qui a été fait, et puis aussi beaucoup d'échanges aussi, hein, parce que Emmanuel rappelle qu'au début, les unités fonctionnelles n'étaient pas du tout adaptées à nos métiers, vous avez su faire évoluer les choses, donc ça... Je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie pour tous les équipements. Bien entendu, il en manquera toujours parce qu'on est, on est toujours à l'affût de produits innovants sur nos opérations. Ça, ce sera un vrai sujet, c'est-à-dire comment effectivement pouvoir intégrer des produits innovants qui arrivent sur le marché, comment prendre en compte dans le bilan carbone. Et puis après, sur le reste, c'est clair que il y a plein de produits qui nous manquent encore dans la base de données. Bon, alors après, on va peut-être pas faire de la délation en ligne.
Non, bien sûr. Alors, Nadège, Emmanuel, juste pour conclure, vous, selon vous, les efforts qui restent à faire?
Du côté industriel, les efforts qui restent à faire sont quand même importants, il faut le dire. Hein. Nous, au niveau du syndicat...
Il y a quelques années, déjà.
On pousse fortement les industriels à faire des PEP, hein, parce que c'est vraiment une manière pour eux de mettre en avant leurs produits et de pouvoir justifier que l'impact environnemental est meilleur que d'autres produits, d'autres solutions techniques. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut y aller. Et puis aussi développer des PEP pour les solutions dans le bâtiment tertiaire. Aujourd'hui, j'ai parlé du résidentiel. On couvre quasiment toutes les solutions. En tertiaire, c'est loin d'être le cas. Donc il nous faut aussi de la donnée environnementale. Et je finirai juste pour dire que aujourd'hui, on voit bien que les bureaux d'études, les constructeurs s'intéressent vraiment à la démarche PEP EcoPassport. Et on en est très content puisque le lot aujourd'hui CVC, donc qui couvre le chauffage, la ventilation et tous les équipements techniques, on voit a du poids à l'échelle du poids carbone d'un bâtiment. Donc, c'est un lot sur lequel il faut travailler, il faut aller chercher de la vraie donnée. Et la vraie donnée, c'est des PEP, quoi.
Nadège, quelque chose à rajouter?
Oui, je pense qu'actuellement, à la RE 2020, on a une collaboration qui commence à arriver et il faut continuer à se collaborer, à apprendre ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver aussi à atteindre la neutralité carbone en collaborant et en faisant pas les choses chacun de son côté, mais vraiment en s'unissant et en allant ensemble vers un but précis et avec que tout le monde soit dans le même mouvement.
Bon, en tout cas, le message est passé. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Nathalie Chang, je vous restez avec nous, je crois, pour cette seconde table ronde. Nadège Houry, Emmanuel Brière, merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle quand même que si les gens qui nous écoutent sont intéressés par aller justement lire et comprendre ce que le travail, en tout cas collectif et individuel, sur lequel vous avez travaillé, on peut retrouver également les articles sur construction21.org. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième table ronde.
Les dossiers Construction 21.
De retour sur Radio Immo pour la suite de notre dossier Construction 21. Et nous allons, dans le cadre de cette seconde partie, évoquer les exemples concrets liés aux initiatives bas carbone qui ont été mis en place et surtout les retours d'expérience. Nous avons toujours avec nous Nathalie Chang qui est avec nous en ligne. Nathalie, rebonjour.
Bonjour.
Nada Jouri, vous êtes toujours avec nous également pour cette seconde table ronde, donc chargée de mission chez Alliance HQE GBC. Vous allez également participer à cette table ronde. Nathalie Méhu, bonjour. Chef de service performance durable pour Vinci Construction France. Merci d'être avec nous. Et nous avons en ligne Didier Méo. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes chef de groupe bâtiment énergie chez CEREMA. Peut-être un mot sur CEREMA, qu'est-ce que c'est ? Rappelez-nous.
Alors, le CEREMA, c'est un établissement public à caractère administratif qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et qui travaille dans tous les domaines de compétences de ce ministère, que ce soit la gestion des infrastructures terrestres, maritimes, la maîtrise des risques, la mobilité, l'aménagement, l'énergie, l'urbanisme et bien sûr la construction.
Alors,
en tout, c'est presque... Oui ?
Non, allez-y, pardon, je vous ai coupé.
Oui, donc en tout, c'est presque 2500 agents, techniciens, chercheurs, ingénieurs, architectes, économistes, sociologues. Enfin, vous voyez, il y a des compétences assez diverses aussi, ouais, voilà, qui travaillent aux côtés d'autres établissements comme le CSTB, Centre scientifique des bâtiments, pour l'ADEME ou pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Alors, aujourd'hui, Didier, vous représentez votre collègue hein, Louis Bourru, qui est auteur en fait, de l'article du dossier qu'on va aborder. Et ça parle de l'intégration des exigences bas carbone depuis les marchés, dans les marchés publics. Alors, qu'est-ce que vous avez abordé dans ce sujet, ou en tout cas dans cet article ?
Voilà, en fait, cet article sert à présenter un travail que Louis Bourru et puis Tristan Le Ménéas de Tribu Énergie ont réalisé en 2019,
oui.
Qui est constitué par un guide, en fait, qui présente une méthodologie pour réaliser une opération bas carbone. Mmh. Alors, c'est un guide qui a été élaboré... avec des professionnels lors de l'appel à projet lancé par l'ADEME qui s'appelle le projet Objectif Bâtiment Énergie Carbone, connu sous le nom de l'OBEC, qui a permis de réunir de nombreux professionnels autour de ce sujet-là pour expérimenter ce que pourrait être la future réglementation RE 2020 à l'aide de deux référentiels que sont les référentiels E+, c'est moi. Mmh. Voilà, donc cet appel à projet qui a duré près de 3 ans, qui était un appel à projet national, a réuni de nombreux bureaux d'études sur l'ensemble du territoire national et a permis de réaliser et de tester au niveau national près d'un millier de projets. En fait.
Mmh. Vous avez la sensation que beaucoup d'acteurs du secteur se posent des questions essentielles, et en particulier pour les marchés publics ?
Alors oui, c'est vrai que ces démarches d'analyse de cycle de vie sont des démarches qui sont nouvelles pour tous les acteurs. Hein. Mmh. Il y a bien sûr quelques acteurs qui sont un petit peu en avance sur le sujet et vous avez la chance d'en avoir quelques-uns oui. autour de la table aujourd'hui. Mais la plupart des acteurs sont encore peu, on va dire, peu au courant de ces démarches. Et donc il y a encore beaucoup de progrès et d'acculturation à faire sur le sujet.
Alors c'est la problématique, elle se pose à quel moment, c'est-à-dire dans le choix des professionnels avec lesquels ils travaillent, le choix des matériaux, quelles sont les questions en tout cas que les industriels se posent ou les gens avec lesquels que vous avez questionné?
Alors, la première question pour un maître d'ouvrage, hein, puisque c'est lui qui est à l'initiative d'un projet d'abord, c'est comment on fait, où est-ce qu'on trouve les compétences ?
Oui, c'est ça.
Voilà, là, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que j'en dispose en interne ? Alors, les grosses collectivités, comme les régions, les départements, ont des services qui sont déjà assez structurés et qui ont la capacité d'intégrer des compétences en analyse de cycle de vie ou en tout cas une sensibilité à ce domaine-là. Pour les autres petites collectivités, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Néanmoins, elles sont pas nécessairement en retard. Hein. Certaines appliquent des démarches ou cherchent à construire des bâtiments, notamment des bâtiments passifs ou des bâtiments intégrant beaucoup de matériaux biosourcés, tels que la paille, tels que parfois le chaume. Et ils permettent aussi de faire le lien entre le monde rural et puis la construction et les besoins d'une collectivité.
Alors justement, on va poser la question à Nathalie Méhu qui est avec nous, chef de service performance durable pour Vinci Construction France. Alors justement, comment les industriels s'adaptent-ils à la RE 2020 et à toutes ces interrogations et ces exigences ?
Alors, on vient de l'entendre, aujourd'hui l'apprentissage il est clairement collectif puisque les premières questions se posent dès les faisabilités, dès les programmations chez les maîtres d'ouvrage. Comme vient d'être cité, faire des analyses de cycle de vie, c'est bien, mais ça reste qu'une méthode, etc. Mais derrière, du coup, ça veut bien dire qu'il va falloir que ce calcul, ces réflexions, soient suivies tout au long d'un projet. Donc, pour être suivi tout au long d'un projet, ça veut dire que tout le monde doit s'accaparer un peu de la question, chacun à son niveau. Mais du coup, nous, en entreprise, on s'aperçoit que chez mes promoteurs internes qui sont des maîtres d'ouvrage, chez mes concepteurs réalisateurs qui sont des gens qui font de la conception-réalisation et qui drivent des projets en techniquement équivalent, et le techniquement équivalent, il marche depuis toujours et il marchait déjà avec la RT 2012 et il continue de marcher. Ça veut dire qu'on évalue un projet, on le dimensionne, on le chiffre, parce qu'à un moment donné, il faut ramener tout ça à des euros, hein, faut qu'on soit un peu clair aussi.
Bien sûr.
Mais ok, puis derrière, c'est le chantier qui finalement va finir par choisir le produit. Par exemple, un isolant, il va choisir l'isolant de type A. C'est bon, il répond bien au cahier des charges qu'on m'a demandé. Donc, ça marche dans la réglementation thermique, dans le calcul E, principalement. Mais aujourd'hui, ce qui nous bouscule, c'est que le calcul C, il dépend de ce produit. Donc, on n'est plus sur du techniquement équivalent, on est sur de l'environnementalement et techniquement équivalent. Donc du coup, cette analyse de cycle de vie, cet impact carbone, il faut qu'il soit suivi tout au long d'un projet. Donc du coup, nous, aujourd'hui, en industriel tel que chez Vinci Construction France, on est plutôt en train de se dire, on ne va pas faire apprendre à tout le monde à faire compter du carbone, parce qu'à un moment donné, on ne va pas tous être ingénieurs, experts carbone, ça devient un peu compliqué. Et puis, il y a des bureaux d'études, il y a des gens qui savent faire et ils resteront experts sur ces sujets-là. Par contre, il faut que cette culture, elle arrive en entreprise pour que les gens se comprennent.
Et que se fasse la montée en compétences, en fait,
On organise effectivement cette montée en compétences, parce qu'après, calculer du carbone, je vais être très trivial, mais ça reste une multiplication. Donc ça va à peu près, quand même, même si après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais du coup, aujourd'hui, nous, on dit il faut que même nos maîtres d'ouvrage commencent d'avoir ces réflexes-là, d'avoir des grandeurs de grandeur. Alors on parle beaucoup de la structure, et puis chez Vinci Construction France, on est connu quand même pour aimer un peu le béton. Le béton, oh là là, attention, ça doit être polluant, etc. Quand je compte que le béton, sur un projet, c'est entre 10 et 20% selon le projet, quoi. Sur la totalité, mais le camembert, il fait 100%. Donc au final, j'ai encore tous les éléments, autres éléments. Donc il n'y a pas un matériau qui est plus polluant que l'autre. Il faut juste qu'on dose peut-être un peu mieux les parts de matériaux et les mettre au bon endroit. Parce qu'on en a entendu parler lors de la première table ronde, le sujet de la complétude est hyper important, puisque l'étude la mieux, le bâtiment bas carbone le mieux, c'est celui qu'on ne construit pas presque, mais surtout celui où on compte le moins de choses. Donc, à un moment donné, il faut bien quand même qu'on soit réaliste et qu'on compte tout. Donc, tous ces sujets-là vont rentrer. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on organise en montant en compétences, c'est effectivement cette acculturation, d'avoir les premiers réflexes, et puis ça passe par des webinaires. Alors on fait pas des émissions de radio comme ça, on est derrière des écrans aujourd'hui.
C'est dommage, c'est sympa, oui.
C'est d'organiser en fait, parce qu'on est très décentralisé également. On est regroupé, on a mis en place et les moyens ont été déployés dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai des interlocuteurs dans toutes les régions qui savent faire des analyses de cycle de vie, qui sont les premiers interlocuteurs sur les projets.
Nadège Joury, je vous vois en phase avec votre collaboratrice.
Oui, je pense que là, pour le moment, on attend avec impatience les textes pour savoir vraiment et pouvoir communiquer et pouvoir accompagner tout le domaine de la construction vers
tout le processus.
Vers l'acculturation, la CV, de l'analyse de cycle de vie, du carbone, parce que du coup l'énergie, maintenant on le connaît depuis quelques années, mais le carbone c'est vraiment une grande nouveauté, et du coup oui, il faut accompagner, mais si on peut avoir les textes pour pouvoir savoir sur quoi il faut accompagner, nous on attend avec impatience.
Didier Méo, vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à ce qu'a dit Nathalie et Nadège.
Effectivement, on sent bien que ce qui ressort des échanges, c'est que la première difficulté pour un maître d'ouvrage et pour une équipe de conception, c'est de définir et d'avoir en tête les ordres de grandeur, les bonnes pratiques aussi en termes de performance environnementale. Hein. Il n'y a pas qu'une solution. J'ai parlé tout à l'heure de matériaux biosourcés, mais on arrive aujourd'hui à faire des bâtiments très performants d'un point de vue environnemental, aussi avec des matériaux, effectivement, sur catalogue, des matériaux industriels, il n'y a absolument aucun souci. Il faut effectivement avoir d'abord, en premier lieu, une réflexion, et ça c'est le rôle du maître d'ouvrage, sur les besoins de son bâtiment, de son projet, de savoir aussi, de bien connaître son environnement, l'environnement dans lequel il est implanté, et quels sont ses atouts. Est-ce qu'il y a par exemple un réseau de chaleur? Est-ce qu'il y a la possibilité de mutualiser un parc de stationnement? Voilà, il faut avoir un réflexe un petit peu de partage et de sobriété dès le départ. Et même si ça, c'est pas des éléments qu'on va calculer, qu'on va rentrer dans les calculs ACV, c'est des éléments qui vont participer au final à avoir une meilleure performance globale. Et au final, ça coûte rien et ça permet même de faire des économies quand, évidemment, on mutualise ces moyens-là.
Alors, le temps passe vite.
Donc ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir déjà.
Très bien, Didier.
En second lieu, après, vous l'avez dit, il faut vraiment avoir une méthode que l'on déroule pour suivre la performance environnementale. Déjà, essayer de la définir, ça c'est une des difficultés des différentes équipes, c'est de cibler quel est le niveau de performance que l'on peut atteindre en fonction à la fois des atouts que l'on a et du budget. Et là, je dirais qu'on est encore en phase d'apprentissage. Hein, l'expérimentation E plus et moins permis à de nombreux bureaux d'études déjà d'avoir des grandes idées, d'avoir des bonnes solutions. Mais c'est vrai que ça reste difficile de dire et de s'engager dès le départ d'un projet sur un niveau de performance.
Alors, voilà. Allez-y Didier, parce que le temps passe vite. Hein. Je vous sens très bavard, Didier.
Je vous en prie.
Non, pardonnez-moi Didier, juste avant de faire la conclusion avec Nathalie Tchang, qui a été à mon avis attentive à tout ce qui a été dit. Peut-être un mot, Nathalie et Nadège, sur tout ce qui a été dit entre vous et vos collaborateurs sur ce dossier.
Aujourd'hui, du coup, cet apprentissage collectif, il est indispensable. Et on le voit, en fait, il ne faut du coup pas calculer, comme on faisait jusqu'à présent, des analyses de cycle de vie. Enfin, ça fait plus de 10 ans que ça se fait via des certifications de qualité environnementale, etc. Mais ça se fait en termes de photographie à la fin d'un projet, quoi. Là, du coup, on le remonte bien plus tôt. Et du coup, il faut faire de la projection. Et donc, il va falloir qu'on adapte aussi les outils. Donc, nous, en entreprise, l'idée, c'est pas de faire des ACV de la fin, mais du coup, de les projeter bien plus tôt pour pouvoir suivre, en fait, cette performance environnementale tout au long du projet. Et puis, qu'elle se passe, en fait, de main en main.
Bien sûr.
Pour que ça finisse, effectivement, chez le conducteur de travaux pour dire, oui, je choisis tel ou tel parce que ça dégrade ou ça dégrade pas, quoi. Et puis, si ça dégrade, c'est peut-être pas grave. On dégrade, mais on sait qu'on va aller récupérer autre chose. Et ça va ouvrir aussi d'autres voies, telles que du réemploi, etc.
Donc, on fait des erreurs, mais on apprend de nos erreurs.
C'est pas forcément des erreurs. C'est juste que techniquement, économiquement, dans les délais, etc., il y a des choix à faire.
Bien sûr.
Et le choix, il est peut-être sur un matériau qui n'a pas forcément le bon coût carbone, la bonne FDES qui va bien et qui avait été prévue. Mais néanmoins, on sait que là, on dérape sur le calcul. On va venir se rattraper sur autre chose. Et d'où ces perspectives, notamment de réemploi de matériaux, etc., qui vont venir alléger en fait ce calcul carbone à la fin. Enfin, ce poids, en fait, c'est un coût. C'est pas de l'euro, c'est du carbone.
Bon, en tout cas, tout ça est très intéressant. Nathalie Tchang, vous avez été attentive à ce qui a été dit. On va conclure avec vous, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Nathalie Tchang?
Écoute, déjà, moi, je souhaiterais remercier les contributeurs parce qu'on a eu énormément d'articles et de motivations pour ce dossier. Donc, tout le monde a vraiment fait un excellent travail de synthèse et de retour d'expérience. Pour conclure, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est effectivement là, dans les années à venir, avec l'ère 2020, le sujet carbone va devenir un sujet pondérant. La filière va devoir se mobiliser à la fois les industriels, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage pour comprendre ce sujet et le traiter au mieux, en sachant que, attention, prudence, il faut vraiment insister sur le principe du bon matériau au bon endroit, parce que je vois parfois des cahiers des charges dogmatiques en disant on veut de l'ossature bois sur un site qui n'est par exemple pas du tout adapté, qu'on peut être très enterré avec à proximité de voies très bruyantes, donc ça peut poser quand même certains problèmes. Donc choisir vraiment le bon matériau au bon endroit. Ensuite, il y a la question du fait que le bas carbone peut aussi rimer avec économie et non pas forcément avec surcoût. Parce que, par exemple, bien dimensionner un bâtiment, notamment en faisant des calculs un peu plus poussés au niveau de la structure, de la superstructure, ça peut être moins de matériaux qui peuvent tout à fait induire des économies. Il y a la question, j'en ai parlé tout à l'heure, mais de la rénovation qui est le bâtiment le plus bas carbone qui existe. Et enfin, le grand sujet aussi dans les années à venir, ça va être celui de l'économie circulaire, qui aujourd'hui très peu valorisé dans le cadre du référentiel Le Plus C'est Moins. Et puis, on a beaucoup de freins sur la réutilisation des matériaux, sur le fait qu'on ne peut pas valoriser des approvisionnements locaux, puisque dans les fiches, on est sur des distances d'approvisionnement moyennes. Donc, il y a encore plein de choses à faire, mais c'est normal. C'est un sujet nouveau et on est en pleine période de rodage, d'apprentissage, tous ensemble.
Et on essaiera d'aborder encore une fois, dans quelques temps, ce nouveau dossier, où il y aura encore de plus en plus d'éléments, on est bien d'accord, c'est sûr.
Oui, tout à fait.
Merci à vous quatre en tout cas d'avoir été avec nous. Didier Mau, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Nathalie Mehu, merci beaucoup. Oui. Nadège Houri et Nathalie Chang, merci à vous quatre pour votre participation. Pour info et pour les intéressés, et si vous souhaitez parcourir ou reparcourir ce dossier sur comment la RE 2020, il est d'ores et déjà consultable dans son intégralité dès maintenant sur construction21.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Construction 21.
Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.